Un texte ou un livre anonyme soulève la suspicion, sauf si on peut en comprendre la raison. Par exemple, si un document est très vieux, on se dit alors que le nom de l'auteur a dû se perdre au fil des siècles et de leurs circonstances turbulentes. Une signature, un nom, porte en lui un petit je ne sais quoi de rassurant, car il authentifie l'écrit, le situe dans le temps en lui donnant un contexte. Cela dit, il existe aussi un grand nombre de manuscrits fabuleux dont on ne sait strictement rien ou pas grand-chose. Cela est également vrai pour un certain nombre des textes bibliques, pourtant inspirés de Dieu. L'auteur du psaume 33 est un illustre inconnu, et il ne fait allusion à aucune circonstance particulière. C'est une expression collective de louange et d'adoration, un hymne magnifique à la gloire de l'Éternel, le Créateur et le Sauveur de son peuple. Pour tout croyant, un sujet perpétuel d'allégresse est de savoir que son Dieu est celui dont la puissance, la justice et la bonté gouvernent le monde. De toute évidence, ce psaume a été composé suite à un événement heureux et peut-être par David, puisque l'ancienne version grecque le lui attribue. Ce cantique, comme la plupart des psaumes, est très bien ordonné. L'introduction, à 3 versets, est un appel à la louange, et la conclusion également de 3 versets est une réponse à cet appel. Le corps du psaume développe la puissance de l'Éternel, sa souveraineté et la protection dont il couvre les siens. Je commence à lire le psaume 33. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer, célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lithadicorde. Chantez à son honneur un cantique nouveau. Pincez habilement les cordes afin de l'acclamer. Psaume 33, versets 1 à 3. Comme partout dans les textes sacrés, juste doit être pris au sens relatif. Il ne signifie pas absolument juste, mais exprime la droiture et le désir d'obéir à Dieu. Face à sa bonté qui se renouvelle chaque jour, le fidèle éclate en louange. C'est un devoir et un honneur, particulièrement après une grande délivrance. Aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Romains chapitre 12, verset 1er. L'expression « un cantique nouveau » est fréquente dans les textes sacrés. C'est la réponse de l'homme à l'œuvre de Dieu. Ainsi, chaque époque de réforme religieuse a été l'occasion de la rédaction de nouveaux chants à la gloire de Dieu. Ici, le psalmiste demande aux fidèles de célébrer l'Éternel parce qu'il est Dieu, et aux joueurs d'instruments de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette requête reste vraie en toutes circonstances. Dans les Écritures, les croyants sont toujours conviés à rechercher la perfection, à exceller dans leur service pour le Seigneur, que ce soit avec leur temps, leur talent ou leurs ressources. Les auteurs du Nouveau Testament enseignent plusieurs fois que Jésus mérite la louange des siens parce qu'il est allé jusqu'au sacrifice ultime de la croix afin de les racheter de la perdition éternelle. Et dans le royaume des cieux, les bienheureux chanteront à la gloire du Christ parce qu'il est le Sauveur. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit « Il chantait un cantique nouveau, oui, il est digne de recevoir le livre, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. » Apocalypse chapitre 5, verset 9. Je continue le texte. « Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. » L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Psaume 33, versets 4 à 6. Dieu doit être loué parce que sa parole est digne de foi et toute puissante. Par elle, Il a fait sortir du néant l'ensemble de la création, tout ce qui existe dans l'univers, que ce soit les choses inanimées ou les créatures vivantes. Il les a créées non seulement pour révéler qui il est, mais aussi par amour pour les hommes avec qui il veut partager sa magnificence. Je continue. Les eaux des mers, il les ramasse, elle les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Psaume 33, versets 7 à 11. La toute-puissance de l'Éternel se révèle dans sa souveraineté sur la nature, sur les éléments déchaînés et aussi sur tous les peuples. C'est lui qui est le maître de l'univers et de l'histoire. Les Nations Unies ont choisi pour devise une parole du prophète Ésaïe qui dit « Martelant leur épée, ils forgeront des socles pour leur charrue et, de leur lance, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ésaïe chapitre 2, verset 4. Au lieu de cette scène idyllique, on entend sans cesse le crépitement des armes et le bruit des canons. Les Nations Unies auraient plutôt dû choisir le verset 10 du psaume 33. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Psaume 33, verset 10. On a déjà enterré la Ligue des Nations et toutes les conférences sur la paix mènent nulle part parce que ceux qui se posent en maître du monde rejettent Dieu au lieu de le craindre. Je continue le texte. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Psaume 33, verset 12. Parce que l'Éternel est souverain sur les cieux, la terre et sur tous les peuples, ce passage devrait figurer à l'entrée de toutes les chancelleries et sièges de gouvernement du monde. Je continue. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Psaume 33, les versets 13 à 15. L'Éternel me suit du regard. Il m'examine et prend des notes. Il surveille de près l'usage que je fais des aptitudes et ressources qu'il m'a données. Dans une parabole, Jésus a dit, « Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on vous demandera de vous. » Luc chapitre 12, verset 48. Je continue le texte. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Psaume 33, versets 16 à 19. Devant toutes les tragédies et calamités possibles et imaginaires en ce bas monde, l'homme est impuissant. Cependant, l'Éternel garde du mal et sauve tous ceux qui se confient en lui. Je finis le psaume 33. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 33, les versets 20 à 22. À l'exhortation de louer l'Éternel. Cette conclusion, qui est une confession de foi, est la réponse des fidèles qui honorent et espèrent en Dieu et qui se reposent sur sa grâce et sa bonté. Nous arrivons au psaume 34, qui, contrairement au précédent, précise les circonstances dans lesquelles il a été créé. Les renseignements donnés en tête du psaume 34 et 56 indiquent qu'ils ont été composés par David alors qu'il est pourchassé par le roi Saül. Il se cache de caverne en caverne, dans le désert aux environs de la mer Morte. Il est découragé et sa foi en Dieu est en chute libre. Il fait alors une tentative désespérée en allant se réfugier chez les Philistins, ennemi héréditaire d'Israël, qui bien sûr se méfie de lui. 1 Samuel chapitre 21, les versets 12 à 14. Au final, il est chassé et doit retourner dans le désert de Juda. Tandis que le psaume 56 reproduit la prière de David alors qu'il est chez les Philistins, dans la gueule du loup, pour ainsi dire, le 34e exprime sa reconnaissance pour avoir pu en sortir. Le ton calme et didactique du psaume 34 indique qu'il est certainement composé après les événements qu'il rapporte. Ce psaume a deux parties. C'est premièrement une prière de reconnaissance pour avoir échappé à la mort. Et deuxièmement, une exhortation qui enseigne l'attitude droite que le fidèle doit adopter envers l'Éternel. L'invitation au milieu du psaume « Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. » Verset 12. Ainsi que sa structure en ordre alphabétique pour en faciliter la mémorisation montre que David veut graver dans le cœur des nouvelles générations ce qu'il a lui-même appris de Dieu en cette grave circonstance. Je commence à lire le psaume 34. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa de sorte que David pût s'en aller. Psaume 34, verset 1er. Ici, le roi des Philistins s'appelle non pas Achish, mais Abimélec. Cette différence a donné de l'eau au moulin de ceux qui rejettent l'inspiration des Écritures. L'explication est simple. Abimélec n'est pas un nom, mais un titre royal comme Pharaon ou César. Du temps d'Abraham, les rois des Philistins s'appelaient déjà Abimélec. Genèse chapitre 20, verset 2, Genèse 26, chapitre 1er. Je continue. « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les affligés l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. » Psaume 34, les versets 2 à 4. Au travers de la souffrance, David a appris l'humilité et la patience. Bien qu'il connaisse le découragement, sa ligne de conduite est de louer l'Éternel en toutes circonstances. Quand les choses vont comme on veut, c'est facile de rendre grâce à Dieu. Mais quand le soleil se cache et qu'on ne sait plus où se tourner, c'est une toute autre affaire. J'en sais quelque chose. Je continue. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu, oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Psaume 34, les versets 5 à 7. Après avoir été expulsé du pays par les Philistins, David a loué l'Éternel qui lui a redonné courage. Mais avant cela, il n'en menait pas large. Je continue. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Psaume 34, verset 8. Ce personnage apparaît souvent dans l'Ancien Testament, mais seulement trois fois dans le psautier. Il œuvre en faveur du peuple de Dieu en assurant notamment sa protection. Il s'agit d'une apparition du Christ avant son incarnation. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Jésus est présent avec les siens. Juste avant son ascension, il a dit à ses disciples, « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 20. Je continue le texte. « Goûtez. et constater que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Psaume 34, verset 9. Les témoignages de la bonté de Dieu sont une nourriture de l'âme, mais il faut savoir les reconnaître et les apprécier. Je continue. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34, les versets 10 et 11. Dans le psaume 23, David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Psaume 23, versets 1 et 2. Et Jésus a dit aux foules qui le suivaient « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 33. Cela dit, la crainte respectueuse de l'Éternel est en tête de la liste des attitudes exigées d'un croyant. Par ailleurs, nul n'est exempt des épreuves de la vie parce que nous sommes toujours sous la malédiction que l'Éternel a prononcée sur Adam et Ève, mais malgré les aléas de l'existence. David a appris par expérience que Dieu est toujours digne de confiance. Je continue le texte. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Psaume 34, verset 12. Ici commencent les exhortations de David qui, fort de son expérience, veut communiquer à la jeune génération ce qu'il a appris de l'Éternel à l'école de la vie. Il utilise une formule traditionnelle employée par les maîtres qui enseignent la sagesse à leurs disciples. Je continue. Qui désire une longue vie? Qui voudra être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Psaume 34, versets 13 à 15. Ce passage répond à l'amour de la vie et au bonheur qui sont des besoins particulièrement manifestes chez les jeunes. Le psalmiste donne ici des conseils précis et pratiques qui sont repris par l'apôtre Pierre dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 12. Un thème classique de la sagesse est la maîtrise de sa langue, car elle trahit infailliblement les dispositions du cœur. David, qui a souffert de la calomnie, s'élève spécifiquement contre le mensonge et recommande l'harmonie. Dans le psaume 15, il a dit « L'homme à la conduite intègre pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. » Psaume 15, les versets 2 et 3. Je continue le texte. « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. » Psaume 34, versets 16 et 17. À partir d'ici, l'exhortation se transforme en promesse de bénédiction pour ceux qui sont justes, c'est-à-dire qui ont à cœur d'obéir à l'Éternel. Notre époque se caractérise par beaucoup de sentimentalistes. Au niveau religieux, Dieu est dépeint comme une sorte de Père Noël à la barbe blanche, toujours prêt à excuser n'importe quelle conduite, aussi déplorable soit-elle. En réalité, il ne laisse strictement rien passer. La moindre faute doit être sanctionnée. Le coupable, c'est-à-dire vous et moi, n'a aucune autre issue que de suivre la démarche du publicain dont il est dit. Il se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Luc chapitre 18, verset 13. Je continue le texte. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Psaume 34, les versets 18 et 19. Ici encore, le juste n'apparaît pas la tête haute. C'est un suppliant qui souffre en son for intérieur de sa condition de pécheur, car il doit lutter contre la tentation et ses mauvais penchants. Mais à cause de sa contrition, il sera délivré par l'Éternel. Le prophète Ésaïe écrit « Le serviteur de l'Éternel ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. » Ésaïe chapitre 42, verset 3. Je continue le texte. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, les versets 20 et 21. Ce texte a une double application. Nul n'est exempt d'une difficulté de la vie, mais Dieu veille sur ses enfants, puisque Jésus a dit que même les cheveux de leur tête est compté. Matthieu chapitre 10, verset 30. En second lieu, David émet ici une prophétie concernant le supplice du Christ. Les Romains avaient coutume de casser les jambes des crucifiés. Dans son évangile, l'apôtre Jean écrit « Quand les soldats arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. » Tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Jean chapitre 19, les versets 33 à 36. Une des règles que les Hébreux doivent respecter concernant l'agneau pascal est de ne pas casser ses os, justement parce qu'il symbolise Jésus le Messie, l'agneau de Dieu sur la croix dont les jambes n'ont pas été brisées. Je finis le psaume 34. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront le châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 34, les versets 22 et 23. Le choix de la méchanceté conduit à une ruine inévitable. À cause de son antagonisme, même avec le bien, la pratique du mal entraîne la destruction des coupables. Par contre, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ et qui s'efforce de mener une vie droite à la vie, ce principe apparaît aussi dans l'Évangile, où il est écrit « Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 18. Tel est donc le choix qui se présente à tout être humain, accepter ou rejeter le Fils unique de Dieu.